Et au menu de notre club cet après-midi, un laser français unique au monde, les chroniques d'un médecin réanimateur, une plateforme de documentaires d'auteurs et un jardin corse où aller écouter des conférences scientifiques. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, deux crânes découverts en Chine et qui apportent du nouveau à l'histoire de l'homme de Denisova.
Oui, tout ce que nous avions de l'homme de Denisova jusqu'à présent, c'était un petit bout de doigt, quelques dents et de l'ADN. Et ces deux crânes pourraient permettre enfin de coller une tête à ce groupe frère des Néandertaliens. On en parle avec le paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin.
Stéphanie Texier est aux commandes de ce club qui a été préparé aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue mes invités du club, le professeur François Fourier, le physicien Pascal Monod et Jean-Marie Barre. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Et bienvenue. Pascal Monod, à quoi correspond une attoseconde, s'il vous plaît, monsieur le physicien?
Une attoseconde, c'est une échelle de temps extrêmement brève qui sert à décrire le monde microscopique et qui vaut 1 milliardième, 2 milliardièmes de seconde.
Voilà, donc c'est plutôt assez rapide. Et les lasers dont on va parler avec vous sont capables, on verra, d'observer des événements physiques à cette échelle donc de temps. Des équipements uniques au monde qui viennent d'arriver en France, c'est l'objet de votre venue. Professeur François Fourier, vous êtes médecin réanimateur. Vous publiez Le souffle, la conscience et la vie, chronique d'un médecin réanimateur chez Albin Michel. On parle peu de ce service hospitalier habituellement. Pourquoi? Parce qu'il fait peur?
Oui, parce qu'il fait peur, parce que on n'a pas tellement envie ni de le voir, ni d'y être, ni d'en sortir. Et c'est un petit peu le but que j'ai eu là, ça a été de raconter les histoires de patients que j'ai pu voir, et ce sont pour beaucoup des histoires assez extraordinaires.
Oui, 40 années donc auprès de ces patients, et vous allez nous raconter quelques-unes de ces histoires dans un instant. Jean-Marie Barre, vous êtes le cofondateur de la plateforme Tink.fr, qui est consacrée aux documentaires d'auteurs, et tout est parti de Lussa, un village de l'Ardèche, c'est ça?
C'est ça, un petit village de 1000 habitants, où un groupe aujourd'hui d'une quarantaine de personnes travaille autour de ce type de film qui requiert du temps, de la patience, de l'investigation et qui considère que la forme, c'est une vision du monde autant que le fond.
Oui, on verra qu'il y a beaucoup d'idées philosophiques et politiques autour de cette conception.
Absolument.
Du documentaire, dans ce village du documentaire, autoproclamé donc à Lussas en Ardèche. Et puis on ira en Corse également retrouver Fabrice Fenouillère, le directeur du parc Galéa, qui lance sa nouvelle saison de conférences scientifiques ce dimanche même. Et vous pouvez bien sûr nous rejoindre avec vos messages, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Deux crânes vieux de 125 et 105 000 ans découverts en Chine et qui pourraient permettre enfin de mettre une tête sur le mystérieux homme de Denisova.
Un de mes principaux collaborateurs m'a appelé. Et là, il m'a dit qu'il avait analysé l'ADN de cette petite phalange et que c'était quelque chose de différent, quelque chose d'inconnu. Ce n'était ni Néandertal, ni l'homme moderne.
Et c'était la voix du paléoanthropologue Sven Tepebe à l'origine de la découverte en 2010 dans la grotte russe de Denisova. Et aujourd'hui, bien, on a plus qu'une petite phalange. Ce sont deux crânes qui ont été découverts par une équipe chinoise avec une publication dans la revue Science. Et pour nous en parler, Jean-Jacques Hublin est avec nous par téléphone. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes paléoanthropologue et à l'Institut Max Planck de Leipzig. Et ça y est, on va enfin pouvoir mettre un visage, alors entre guillemets quand même, sur cet homme de Denisova, Jean-Jacques Hublin.
Enfin, en tout cas, un crâne, un cerveau.
Ouais.
Très probablement, on a mis la main sur des fossiles que l'on doit attribuer à ce groupe un petit peu mystérieux.
On vous voit prendre des pincettes, parce que ce qui est vraiment très étrange dans cette actualité, c'est que les chercheurs chinois, eux, n'évoquent pas du tout l'homme de Denisova. C'est la communauté scientifique, depuis la publication, qui a fait cette interprétation.
Oui, oui, j'allais dire moi le premier. Dès qu'il est question d'origine de l'homme et d'histoire des groupes humains, évidemment, il y a toujours une influence possible de l'idéologie, parfois même de la politique ou de la religion. Et ce qui est vrai, c'est que les Chinois, enfin en tout cas les paléanthropologues chinois, depuis plusieurs générations ont une vision assez particulière de l'évolution de l'homme, puisque dans le fond, ils prêchent pour une évolution locale depuis les formes les plus anciennes d'Homo erectus, au-delà du 1,5 million d'années, jusqu'aux habitants du Pékin moderne. Donc une évolution locale de l'homme sans qu'il y ait ces... ces hommes modernes d'origine africaine qui viennent se mêler à tout ça.
Alors, il parle d'un homme archaïque. Quel est cet homme archaïque selon les auteurs qui publient, si on devait un peu rendre honneur à leurs travaux?
On a depuis assez longtemps identifié en Chine des fossiles et ces nouveaux fossiles font partie d'un groupe plus vaste, des fossiles qui ne sont ni des Homo erectus ni des hommes modernes, qui sont archaïques mais qui ne sont pas aussi primitifs que les Homo erectus. Et donc les chercheurs chinois, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs dans cet article, dans le fond tirent argument de l'existence de ce groupe qui embête un peu tout le monde depuis longtemps, pour justement soutenir cette idée d'évolution graduelle en Chine des hominines. En fait, ce groupe, on a depuis quelques années, depuis 2010, une idée beaucoup plus précise de ce qu'il pourrait être, puisque sur les données paléogénétique, donc sur l'ADN ancien extrait de fossiles qui viennent, alors non pas de Chine, mais de l'Altaï, pas très loin, on a identifié un groupe qui est le groupe frère des Néandertaliens. C'est-à-dire que pendant que les hommes de Néandertal évoluaient en Europe, eh bien, à partir d'un ancêtre commun, quelque chose d'un peu équivalent aux hommes de Néandertal aurait évolué en Asie.
Et ça, ce sont les Denisoviens ?
Et ce sont ces fameux Denisoviens, alors qui, jusqu'à présent, sont un peu mystérieux, puisqu'on les connaît par leur ADN, mais dans la grotte de Denisova, ils ne sont représentés que par des restes osseux très fragmentaires, des dents isolées, des petits fragments, comme en particulier ce fragment de phalange qui a permis le séquençage de l'ADN, du génome complet de l'homme de Denisova.
Elle est où cette grotte, Jean-Jacques Hublin ?
Alors la grotte de Denisova, je vous le dis, elle est dans l'Altaï. Le gisement dont on parle aujourd'hui, il est dans le comté de Xuchang, au sud-est de Pékin, dans le centre de la Chine.
Alors, Denisovien ou pas, qu'est-ce que nous apprennent de nouveau ces deux crânes ? Ils sont très bien conservés.
Surtout un des deux, oui, assez complet. Et ce qui est très spectaculaire, c'est que c'est un crâne avec un très grand volume endocrânien, donc un volume pour le cerveau qui est de 1800 millilitres, ce qui est énorme. Hein, la plupart des hommes actuels, ils ont des cerveaux autour de 1300, 1400 millilitres. Déjà, pour aller dans des tailles au-dessus de 1600, 1800, il faut chercher. Et c'est un caractère qu'on a aussi chez des Néandertaliens et aussi chez des hommes modernes anciens.
Est-ce qu'on pourrait pas tester l'ADN de ces crânes tout simplement pour voir s'il colle avec l'ADN trouvé à Denisova ?
Alors malheureusement, l'ADN fossile, l'ADN ancien, ne se conserve que dans des conditions de milieu assez particulières. En particulier, il faut une température moyenne, une température annuelle qui soit relativement basse. Et c'est pour ça que dès qu'on descend un petit peu vers le sud, eh bien on n'a plus d'ADN fossile conservé dans les restes de ce type.
Jean-Jacques Hublin, vous n'avez pas eu ces crânes entre les mains. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils appartiennent à cette famille des Denisoviens, alors exactement ?
Alors, il y a deux arguments. D'abord, ces Denisoviens, ils ont été identifiés dans l'Altaï grâce à l'ADN ancien, mais on sait que chez les hommes actuels, on retrouve un petit peu de cet ADN de Denisovien dans des populations qui vivent en Australie, en Mélanésie, dans le sud-est asiatique. Ce qui suggère que pour que le mélange entre cet ADN de Denisovien et puis l'ADN des hommes modernes qui sont sortis d'Afrique pour peupler ces régions se soit opéré, eh bien il faut que les Denisoviens aient existé ailleurs que dans l'Altaï, et en particulier dans le sud de l'Asie. Et donc l'idée, c'est que en fait, ces Denisoviens ont existé depuis l'Altaï jusqu'à l'océan Indien et la mer de Chine, donc potentiellement en Chine. Ensuite, ces nouveaux fossiles, eh bien, ils présentent tous les caractères qu'on attend, dans le fond, dans un groupe qui serait le groupe frère des Néandertaliens. Ils ont ce grand cerveau, comme les Néandertaliens. Ils ont des caractères primitifs qui les différencient de l'homme actuel. Et puis, ils ont aussi quelques ressemblances avec les Néandertaliens, dans l'oreille interne, sur la morphologie externe du crâne, sur l'occipital, enfin, des détails anatomiques. Mmh. Et donc, je dirais, ils sont au bon endroit, au au bon moment et avec les caractères qu'il faut pour, dans le fond, être interprété comme un groupe frère des Néandertaliens, ce que sont les Denisoviens.
Et est-ce que d'autres découvertes faites en Chine pourraient faire penser aussi aux Denisoviens sans que les Chinois ne se soient posé la question ?
Alors, il y a eu déjà plusieurs publications. Je pense à l'homme de Mapa, je pense à l'homme de Xu Jiayao, qui ont prouvé qu'il existait des formes, toujours à peu près dans le même type d'âge, avec des caractères qui rappellent un peu les Néandertaliens, mais qui en même temps ne sont pas Néandertaliens. Et moi, je pense qu'on a déjà des Denisoviens dans nos tiroirs, mais à cause de l'incapacité d'identifier l'ADN de ces fossiles et de le comparer à celui de Denisova, eh bien, on ne peut pas mettre l'étiquette Denisovien dessus. Et je dois dire que les collègues chinois qui publient tout ce matériel font preuve d'une belle constance en évitant soigneusement de prononcer jamais le mot Denisovien dans aucune de leurs interventions et de l'écrire dans aucune de leurs publications.
Bon, en tout cas, c'est un nom que vous prononcez pour eux, comme beaucoup d'ailleurs de paléanthropologues ailleurs qu'en Chine, à l'occasion de cette publication importante hein, quand même qui sort...
C'est un matériel tout à fait spectaculaire, tout à fait intéressant et surtout qui est attendu. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que quand on lit la presse ce matin, on se rend compte que dans le fond, tout le monde a un peu la même idée. En Europe, aux États-Unis, on dit, finalement, on a mis la main sur les Denisoviens, alors qu'encore une fois, quand les auteurs sont interviewés,
Ils n'en parlent pas.
Ils font leur maximum pour ne pas utiliser ce terme.
Bon, des Denisoviens dans le tiroir, ce sera un très bon nom de roman, Jean-Jacques Hublin. Gardez ce titre pour vous. Et puis en attendant, on a cette publication qui vient de paraître dans Science. Merci pour votre éclairage et Axel, à lundi.
Bon week-end.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les chiens super efficaces pour renifler le cancer du sein. L'Institut Curie vient de dévoiler les résultats de son test préliminaire visant à mettre au point une détection précoce des tumeurs cancéreuses. Théo et Nikios, deux Malinois du projet CADOG, se sont montrés efficaces à 100% pour détecter les composés odorants dans des lingettes imprégnées de la sueur des 130 participantes. L'étude clinique étape suivante pour valider ces tests canins est prévue pour 2018. Elle nécessitera l'entraînement de deux nouveaux chiens et devrait permettre de tester la méthode sur plus de 1000 femmes. Des changements dans des bactéries intestinales de souris qui pourraient également modifier leur fonction cérébrale. Des chercheurs de l'université de Waterloo aux États-Unis ont transféré une partie du microbiote fécal de souris anxieuses sur des souris saines et ils remarquent qu'en plus de provoquer des troubles intestinaux, cette greffe s'accompagne des mêmes troubles anxieux que chez les receveuses, que chez les donneuses. Ce n'est pas la première démonstration de ce type de lien entre cerveau et intestin, mais c'est la première fois que des chercheurs se proposent de soigner les troubles anxieux via des traitements intestinaux. Des résultats à suivre. Et puis pour finir la semaine, on vous propose une vidéo intrigante de dinde postée sur Twitter hier. Un utilisateur du réseau social a été surpris de voir devant chez lui au petit matin une dizaine de dindes tournées inlassablement autour du cadavre d'un chat. Cette procession inattendue et fortement partagée sur les réseaux a également excité la curiosité de plusieurs spécialistes du comportement animal, chacun y allant de sa petite explication. Nous avons retenu celle de Alan Krakauer, biologiste à l'Université de Californie, qui évoque un cas déjà étudié d'inspection du prédateur. Les dindes normalement chassées par les chats tourne autour pour s'assurer que la menace est bien terminée et qu'elle ne court plus aucun danger. Cette vidéo intrigante est à voir sur le Facebook et le Twitter de La Tête au Carré. Allez, le club dans un instant. Set up. Love.
that you bring. You know I love the change, so hit the throttle. That's what I like. That's what I need. Just what I want. So give it to me. 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 Give it to me.
Hi John John, that's what I like.
La tête au carré. Le club.
Vous m'avez dit au téléphone que vous aviez des petits vertiges.
Oui, 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 quelques vertiges. Oui, je crois que j'aime. Enfin, en plus, je souffre d'une baisse d'audition dans mon oreille droite. Non, mon oreille gauche. Enfin, ma gauche, enfin, je sais plus quoi. Ou ma gauche ou ma droite. Enfin, je ne me souviens plus.
Eh bien, on va voir ça.
Avec Mathieu Vidard. Sur France Inter.
Voilà, nous sommes en sécurité avec notre médecin réanimateur cet après-midi, François Fourier. Vous intervenez si besoin.
Pas de souci.
Évidemment, au cours de cette émission, dans ce club, on va parler d'un laser français unique au monde, de vos chroniques justement de médecin réanimateur François Fourier, d'une plateforme de documentaires d'auteurs et puis d'un jardin corse où vous pourrez aller écouter des conférences scientifiques à partir de dimanche. Et on commence avec vous, Pascal Monod. Vous êtes physicien donc au CEA et vous êtes chercheur au LINIL, c'est le laboratoire interaction dynamique et laser du CEA et du CNRS. Et alors, il y a quelques jours, a été inaugurée sur le plateau de Saclay, donc en région parisienne, une plateforme qui rassemble trois installations laser assez uniques au monde d'ailleurs. Et justement, dites-nous en quoi ces lasers sont très particuliers et à la pointe de la technologie. Alors, ça, ce sont des équipements très importants que vous avez reçus. Hein.
Ce sont effectivement des équipements extrêmement novateurs qui ont la particularité de délivrer donc des impulsions laser extrêmement brèves, des flashs de lumière de durée extrêmement courte, et qui ont vocation à accueillir des scientifiques d'une grande variété de disciplines qui sont intéressés par l'étude de la dynamique de la matière microscopique aux échelles de temps extrêmement brèves.
Ça veut dire que ces lasers atteignent vraiment des puissances extrêmes par rapport à tout ce qu'on connaissait avant?
Alors les lasers délivrent des puissances extrêmes puisque plus les flashs sont brefs, plus il faut que la puissance soit élevée pour pouvoir prendre des clichés. Mais leur particularité principale, c'est vraiment d'être extrêmement bref. Quand je parle de brièveté, on est ici dans le domaine de la femtoseconde, c'est-à-dire le millionième de milliardième de seconde.
Ouais, mais on fait encore mieux, c'est ça?
Voilà, voire l'atoseconde, c'est-à-dire le milliardième de milliardième de seconde.
Ouais, femtoseconde, et on n'avait jamais entendu parler de ça quasiment.
Non, mais en première fois.
Hein. Jean-Marie Barbe, hein, vous n'aviez, non?
Première fois.
Voilà.
Ce sont des échelles de temps tellement extraordinaires que nous-mêmes, pour nous confronter à cette réalité-là, on utilise la comparaison suivante. Il y a le même rapport entre une attoseconde et une seconde qu'entre une seconde et l'âge de l'univers.
C'est donc 13 milliards d'années. C'est hallucinant, hallucinant. Un milliard de milliardième de seconde, hein, c'est ça?
Voilà.
Ouais. Jean-Marie Barbe.
Oui, non, la question que je me pose, c'est quel en est l'intérêt
Ah ben oui, on
profond.
A envie de savoir à quoi ça sert.
À quoi
bien
ça
sûr.
Sert
ouais. Qu'est-ce qu'on étudie alors? On va vraiment au cœur de la matière?
Alors l'idée, c'est d'aller interroger le monde microscopique, et en particulier effectivement les électrons qui composent la matière, Alors, ces lasers, ils ne servent pas à étudier la matière au repos, sa structure, ses propriétés, mais à étudier comment les électrons dans la matière sont mis en mouvement, sont accélérés, sont excités par l'absorption de lumière, par exemple. Donc, c'est tout l'intérêt de ce type de laser. C'est une problématique qui intéresse un grand nombre de disciplines en réalité, puisque les électrons dans la matière intéressent aussi bien la physique du solide, le monde du vivant, les atomes, les molécules, les gaz qui nous entourent, etc.
Et ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas observer auparavant. C'est-à-dire qu'on a de nouvelles lunettes, au fond, sur cette matière qui, à cet état-là, en tout cas, d'échelle de temps, nous était jusqu'alors inaccessible.
Alors effectivement, regarder la matière à l'échelle microscopique et aux échelles de temps les plus rapides, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc on ne peut pas l'étudier avec des moyens conventionnels, je dirais. Et donc il faut sans arrêt développer des outils de plus en plus sophistiqués pour franchir des étapes en termes de temps, de durée, de la nanoseconde, la picoseconde, la femtoseconde et la toseconde. Tout ça est une construction lente et qui finalement aboutit aujourd'hui à franchir encore une nouvelle étape.
Oui, François Fourier.
Ça peut aller vers jusqu'à de l'imagerie potentielle d'une matière qui change.
Ah, ça c'est le médecin qui s'intéresse évidemment.
Oui, tout à fait. Oui, il y a parmi les applications que l'on pressent et les domaines sur lesquels on travaille, il y a l'imagerie médicale résolue en espace et en temps. C'est-à-dire qu'on peut imaginer s'intéresser, par exemple, à des protéines comme celles qui interviennent dans la maladie d'Alzheimer pour voir en temps réel leur déformation. Ça, c'est une perspective, à moyen terme. Mais c'est un travail actuellement qui est mené au sein de nos laboratoires.
Ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme application? Alors, parce que quand on parle d'application, on parle de choses un peu concrètes, donc ça nous aide à imaginer à quoi pourrait servir cette technologie. Donc là, vous parlez de choses très concrètes dans le domaine justement de la biologie. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre alors d'intéressant avec cette technologie-là?
Alors, ce sont d'abord des outils qui sont faits pour faire de la physique fondamentale, donc étudier des phénomènes vraiment élémentaires et qui concernent une large variété d'objets. Et ça, c'est un vrai défi qui concerne déjà une grande communauté de physiciens, notamment, je pense à tous les partenaires de ce projet, de l'Université Paris-Saclay et de Sergi Pontoise, qui sont vraiment captivés par les perspectives offertes par l'idée de regarder au plus près des éléments primordiaux dans la matière. Au-delà du caractère vraiment fondamental, on peut penser à un grand nombre de phénomènes puisque un grand nombre de phénomènes sont gouvernés par le mouvement des électrons dans la matière. On peut penser aux cellules photovoltaïques, par exemple. Le rendement d'une cellule photovoltaïque dépend de la façon dont la lumière va promouvoir des électrons dans la matière, les faire circuler, etc. Donc être capable de regarder ces phénomènes aux échelles de temps les plus courtes, c'est demain être capable d'optimiser le rendement de ce type d'objet. Et on travaille effectivement sur ces thématiques-là.
C'est-à-dire qu'on va avoir des images concrètement aussi de ce qui se passe à ces échelles de temps très très courtes?
Alors
on reconstruit filmer, ça, ce qu'on va voir avec ces lasers, ou pas?
On parle de film, alors quelquefois entre parenthèses, il faut savoir que ces lasers, je vais peut-être revenir un peu sur le mécanisme qui permet d'avoir des impulsions extrêmement brèves. On part de lasers qui se situent dans le domaine infrarouge, qui ne sont pas visibles à l'œil et qui sont de durée femtoseconde, qui sont déjà des objets à la pointe de la technologie, mais que l'on va encore pousser pour les convertir en rayonnement attoseconde dans le domaine des rayons X.
Oui, d'accord. Donc, on vous suit à peu près, oui.
Donc ce rayonnement qui nous sert à filmer la matière se situe dans un domaine qui n'est pas perceptible par l'œil. Ouais. Donc la détection des phénomènes passe par des capteurs, des détecteurs, est interprétée par des ordinateurs, etc. Donc on reconstruit ce qu'on appelle des images, mais qui ne sont pas tout à fait conformes à la façon dont on détecte des images avec notre œil et notre cerveau.
Vous imaginez, Jean-Marie Barbe, le premier documentaire en attoseconde des premières images. C'est extraordinaire, non?
Mais je m'interroge sur le fait que, comme on est avec des reliefs invisibles, des réels invisibles pour l'œil humain, la machine donc fabrique une image pour qu'on puisse la voir, la traduire, l'interpréter. Donc il y a une obligation de véracité ou une obligation de précision dans les images qui nous sont, je dirais, modélisées ou qui sont traduites par les machines.
Oui, absolument. Oui, donc une expérience se déroule d'abord par la prise de mesures, donc de données quantifiées,
oui,
qui sont stockées et puis travaillées par les ordinateurs avec le moins de pertes d'informations possible. Donc ce sont des documents extrêmement concrets finalement qu'on est obligé de porter jusqu'à la représentation d'une image pour que les physiciens puissent l'interpréter.
Allez, François Fourier, dernière question.
Quelle définition spatiale ? Vous parlez de définition temporelle extraordinairement courte,
oui,
mais dans l'espace, ça représente quoi ?
Alors, étant donné qu'il s'agit de rayonnements qui se situent dans le domaine ultraviolet ou X, on peut descendre jusqu'à quelques nanomètres. Donc on peut conjuguer en même temps des résolutions spatiales extrêmement fines et des résolutions temporelles extrêmes.
Voilà, discussion donc au milliardième de seconde avec cette plateforme Atolab qui vient juste donc d'être inaugurée sur le plateau de Saclay et que le monde entier nous envie. En tout cas, Pascal Monod, vous restez avec nous dans un instant, discussion avec le professeur François Fourier autour de la réanimation.
Je t'aime parce que tu es mon contraire. Je serai le sable et tu serais la mer. On pourrait nager sous les bateaux et jeter les envies solitaires. Retiens mon désir, ne laisse pas s'enfuir. Je serai le vent et tu serais la terre. On pourrait marcher dans l'avenir, changer la couleur de tes souvenirs. Retiens mon désir, ne laisse pas s'enfuir. Je serai le feu et tu serais la pierre. Prendre le tout dernier métro dans les couloirs et leurs courants d'air. Retiens mon désir.
Elle s'appelle Cléa Vincent et elle nous chante Retiens mon désir. Un instant dans le club de la tête au carré sur France Inter. Avec mon nouvel invité, le professeur François Fourier, auteur de ce livre « Le souffle, la conscience et la vie ». Ce sont les chroniques d'un médecin réanimateur aux éditions Albin Michel. L'occasion donc pour le lecteur de découvrir comme un univers tout à fait singulier de la réanimation au travers votre expérience avec les patients. 40 années justement de carrière, vous avez soigné je crois plus de 20 000 malades. Et vous écrivez que la réanimation c'est la voie finale commune où convergent des destins, des hasards, des rencontres et des logiques improbables. Ça résume bien ce lieu ?
Tout à fait. Ça résume l'idée de quand on est malheureusement hospitalisé en réanimation, on devient nu. On arrive dans un monde qu'on connaît pas. On est dépendant de machines, de personnes qu'on connaît pas non plus. Mmh. Et ça remet l'humain à sa dimension, on va dire, ultime, quoi, ouais, profonde.
Ce métier, celui de venir après la catastrophe, hein, justement, pour remettre les choses en place, remplacer avec des machines les fonctions essentielles à la vie jusqu'à leur réparation naturelle. Et le chemin est long, parfois. Hein.
Oui, et c'est pas seulement ça. La Renaissance, ça se réduit pas de la technique, parce que ça serait trop réducteur, et l'objectif, c'est plutôt d'utiliser simplement la technique une fois qu'on a fait un diagnostic pour permettre d'avoir le temps. C'est une échelle de temps aussi. Oui. Le temps au traitement étiologique, on dit, donc de la cause d'être mise en place. Si vous avez une pneumonie, vous allez faire une insuffisance respiratoire, je vais vous mettre une machine, je vais vous mettre une circulation extracorporelle, le temps que le traitement que je vais donner soit actif et que votre poumon guérisse.
Ouais. Alors, il y a quand même une première surprise dans ce que vous nous racontez, c'est les services de réanimation qui sont très peu nombreux en France, même dans les grandes villes.
Oui, bien sûr, parce que il y en a 350 actuellement, répertoriés en France entre 350 et 400, enfin on pense 350. Parce que c'est pas utile d'en avoir beaucoup, dans la mesure où il y a une sélection à l'entrée, évidemment, parce que l'objectif c'est pas de prendre des malades qui n'en ont pas besoin, qui sont soit trop graves, soit pas assez graves. Donc il faut tirer entre les deux, si l'on peut dire. Deuxièmement, heureusement, ça ne concerne pas des masses de population, mais on dit aujourd'hui à peu près, en France, 500 000 personnes par an sont hospitalisées en réa.
Il faut venir le matin pour comprendre un peu mieux ce lieu, en particulier au moment de la toilette.
Oui.
Le patient est éveillé ou dans le coma, il dort ou il vogue entre justement l'inconscience et le brouillard. Je vous cite, ce sont les mots que vous employez, mais qui résument parfaitement ce qu'on peut trouver là-bas.
Tout à fait. C'est un monde dans lequel la dépendance du malade est totale. Donc, il faut prendre en charge la totalité de ses besoins, les besoins physiologiques de base. Ça, c'est le domaine quand même préférentiel des aides-soignants, des infirmières. Il faut prendre le besoin de sa maladie, savoir pouvoir la traiter, prendre le temps des réparations naturelles ou aider, si on peut dire. Et surtout... Il faut le sortir de cette situation de dépendance dans laquelle il a, et c'est tout à fait logique, une certaine tendance à rester. Parce que c'est assez confortable si je vous endors, si je veux une machine pour que vous respiriez plus, et puis vous pouvez y rester un certain temps. Quoi.
Ouais. Vous avez des cas absolument exceptionnels d'ailleurs. C'est le premier exemple d'ailleurs de ces nombreuses histoires que vous racontez dans cet ouvrage, puisque vous dites que certaines chambres d'abord vous rappellent des histoires. C'est le cas de cette chambre 2 avec Mohamed, 68 ans, un patient avec une situation qui a duré pendant très longtemps. Vous ne pensiez jamais qu'il allait revenir à la vie?
Oui, Enfin, ce que j'ai voulu aussi prendre comme exemple dans ce livre, ce sont des personnes et des malades chez lesquels la prise en charge en réanimation et leur sortie de réanimation et la façon dont ils ont pu, pour certains, pas en sortir ou en sortir, est totalement dépendante de la vie qu'ils ont vécue avant.
Ouais.
Et je voulais pas du tout faire un livre médical, je voulais faire un livre sur leur vie. Prenez l'exemple de Mohamed, c'est un Algérien qui va vivre de 1940 à 1995, 55 ans de guerre. Il ne fait que vivre dans la guerre. Et à un moment, il va vivre une situation tellement épouvantable que la seule solution qu'il ait, c'est de se renfermer à l'intérieur de lui-même et de devenir totalement dépendant de tout. Il y a d'autres exemples.
Juste pour rester sur le cas de Mohamed, parce que vous êtes face à une situation quand même qui est tout à fait particulière. C'est-à-dire que cette personne qui est entre vos mains n'a pas de famille. Donc vous cherchez son environnement familial, qui est absolument essentiel dans ces cas dramatiques aussi.
C'est obligatoire. On ne peut pas prendre une décision. Pour ce patient, ce qui s'est posé comme question, c'était d'arrêter ou de continuer une réanimation qui semblait quand même s'approcher petit à petit de quelque chose d'un peu déraisonnable. Et on peut pas prendre ce type de décision tout seul, même si la décision ultime appartient au médecin. Il faut la prendre en toute connaissance de cause.
Ouais.
On n'avait aucune famille, aucune.
Et comment on prend la décision alors?
Si on n'a pas de famille, on la prend tout seul. Alors, quand je dis tout seul, c'est au sein de l'équipe. C'est jamais une décision unique prise que par le médecin. Mais sinon, il faut s'entourer de la vie de la famille. Et il y a un point auquel je tiens beaucoup, qui est que dans notre pays, jusqu'à présent, la décision reste appartenir au médecin. C'est la loi. Mais qu'elle ne peut être prise qu'à condition d'être en accord avec la famille. Ce qui est, certains disent un peu hypocrite, peut-être un petit peu trop subtil, mais qui est, à mon sens, capital, parce que nous ne faisons pas porter aux familles le poids de la décision. Mmh. Il y a d'autres pays où c'est la famille qui décide. Ouais. Avec tout ce que ça peut comporter comme remords.
Ouais. Vous avez d'ailleurs un cas où une mère vous reproche de ne pas avoir pris la décision à sa place, alors qu'elle vous demandait justement de ne pas l'obliger, elle, à demander la mort de sa propre fille.
Tout à fait, exactement. Ouais. Et il y a des impasses, bien sûr. Ça, c'est pour ça que j'ai pris cette histoire, parce que c'est une impasse complète. C'est une enfant qui a son pronostic vital dévasté à très court terme, et chez lequel, si elle avait été majeure, personnellement, j'aurais pris la décision d'arrêter la réanimation. Mais comme elle est mineure, c'est sa mère qui décide. Et il y a pas de maman qui peuvent décider d'arrêter la vie de leur enfant comme ça, un peu à froid, si vous voulez. Ouais. Donc c'est une impasse, parce qu'elle va décider de nous demander de continuer. Mmh. Mais en même temps, elle va imposer à sa fille quelque chose de terrible, qui va être une fin de vie extraordinairement difficile.
Oui. Alors, il y a ces cas dramatiques, évidemment, auxquels vous êtes confrontés quasiment au quotidien. Encore un exemple de prise de décision de la part du médecin qui est très compliqué. Un homme dans le coma auquel il faut procéder à une amputation. Hein. Et évidemment, cette décision, c'est vous qui la prenez.
Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que là, c'est une décision de mort ou de séquelles. Alors après, le jugement, c'est est-ce que ce monsieur va accepter un certain niveau de séquelles, qui en l'occurrence était très lourd, hein, puisque c'était l'amputation des deux jambes. Et est-ce que je dois plutôt arrêter la réanimation ou aller jusqu'à cette amputation bilatérale? Puisque vous y faites allusion, ce malade, ce patient est pour moi l'exemple parfait de la réanimation, parce que c'était un militaire qui avait participé aux opérations françaises au Liban, et en particulier qui avait fait partie du groupe des militaires qui avaient explosé, qui avait subi un attentat au Drakkar. Hein. Il y avait eu 58 militaires français qui étaient morts. Et il y a une photo que vous pouvez trouver absolument partout, qui est la main de l'un de ces militaires qui est complètement enseveli dans les ruines, et qui est tenu par un de ses camarades qui va lui tenir la main pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'on le sorte des ruines. Et pour moi, c'est une image capitale de la réa, c'est que le malade, c'est la main qui sort, qui donne à l'équipe qui va essayer de le sortir de là.
Oui. Et qui sort de loin parfois.
Et qui sort de très très loin.
C'est le cas de Mohamed d'ailleurs, hein, parce qu'il reste dans un état végétatif pendant très longtemps. Et il y a une sorte de miracle, parce que même vous n'arrivez pas à vous l'expliquer, qui fait qu'il revient à la vie et qu'ensuite il sort de l'hôpital. Hein,
absolument.
Et que vous arrivez à le revoir après. Et,
oui, parce que j'avais quelque chose d'assez particulier pour un service de réa, c'est qu'on avait, j'avais organisé une consultation des patients après la réanimation, ce qui est relativement rare, ce qui m'a permis de tisser avec eux des liens extrêmement forts.
Est-ce que vous êtes formé psychologiquement pour justement aborder auprès de vos patients des questions hyper douloureuses, parce qu'il y a non seulement cette personne qui se fait amputer, mais à laquelle il faut également apprendre qu'elle a perdu 3 personnes pendant l'accident, sa femme et ses 2 filles.
Ouais. Moi, on m'a pas formé, parce qu'à l'époque de mes études, c'était quelque chose qui était... Le médecin devait être une espèce d'être tout puissant, qui ne pouvait pas avoir d'état d'âme. Bon. Maintenant, les plus jeunes, on les forme à ça. Il y a même des pays où on simule des relations avec les familles, avec des processus d'annonce, de discussion, etc. Ça s'apprend comme le reste, bien sûr. Mais il faut toujours garder beaucoup, beaucoup d'humilité et se dire qu'on n'a pas toujours toutes les explications qu'on pourrait apporter aux gens.
On va écouter justement le témoignage d'une infirmière, extrait d'un reportage de France Culture dans l'émission Les Pieds sur Terre. C'était en 2014.
C'est vrai qu'on a beaucoup de contacts en réanimation chirurgicale, parce qu'on reçoit tout de suite les familles et on fait le tampon un peu avec les médecins, les anesthésistes et le patient. Quand on voit qu'ils ne comprennent pas avec des mots techniques, on va au plus simple, hein, mais avec des mots qu'ils comprennent. Quand l'état est grave, on essaye de leur dire qu'on ne sait pas si demain il sera encore là ou... Ça peut prendre du temps, on va le mettre sous calmant, il va s'endormir tout doucement. Moi, je les prends dans mes bras s'ils ont besoin. Voilà. Quand vous avez une petite dame qui perd son ado de 16 ans à cause d'un accident de scooter, je vais pas la laisser toute seule. Non, elle a besoin d'une épaule pour pleurer. Elle va nous prendre la main ou elle va nous dire « restez avec moi un petit peu ». Et pour mes patients, quand je vois qu'ils vont pas bien, moi, j'ai tendance à toucher les mains, à caresser, hein, pour dire que je suis présente et que s'ils ont besoin, je suis là. On n'est pas des robots. Quand quelqu'un souffre, on souffre aussi un petit peu, même si on fait la part des choses en se disant « c'est pas de ma famille, c'est pas moi, mais c'est quand même un patient, donc il faut savoir réconforter ».
Voilà, François Fourier, le témoignage.
Magnifique témoignage.
De cette infirmière.
Magnifique.
Et qui n'est pas un cas isolé. Hein.
Non, non.
Il y a beaucoup de personnalités comme ça dans les services de réanimation.
On peut pas travailler dans ce milieu si on fait pas ça. C'est pas possible.
Vous avez des nouvelles de vos patients plusieurs années après ou pas?
Oui, quelques-uns.
Ouais.
Quelques-uns.
Parce qu'on voit la densité des histoires, hein, quand même, que vous racontez.
Oui.
Hein.
C'est pas rien. Certains sont devenus des amis, hein, parce qu'à force de se voir, on finit par repartir des liens. Certains sont maintenant complètement intégrés dans des groupes avec le personnel du service. C'est tout à fait frappant parce qu'ils peuvent avoir le même âge que les infirmières, que les jeunes médecins, etc. Donc, avec maintenant les réseaux sociaux, ça se passe très très bien. Et on se revoit régulièrement avec eux et avec les équipes.
Et même parfois, des histoires plus intimes.
Absolument.
Avec des sœurs bénédictines. Une sœur bénédictine. Mais je laisse au lecteur le soin de découvrir ce récit. Voilà, très touchant, évidemment. Ça s'appelle Le souffle, la conscience et la vie. Ce sont vos chroniques de médecin réanimateur François Fourier. Et c'est publié aux éditions Albin Michel. Vous restez avec nous?
Bien sûr,
allez,
merci.
On part en Corse dans un instant. Et Madonna sur France Inter.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Allez, la suite de notre club. Direction la Corse nous attend. Fabrice Fenouillère, le directeur du parc Galéa. Vous êtes en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Fabrice Fenouillère, votre parc de 9 hectares se trouve à Taglio Isolaccio. Est-ce que je le prononce bien?
Parfaitement bien.
Bon, c'est à combien de kilomètres de Bastia à peu près?
Alors voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce petit endroit, c'est à 30 km au sud de Bastia, au côté de la mer.
Voilà, vous êtes au bord de la mer, hein. Il faut aller voir les photos sur votre site. Alors c'est à la fois un jardin et puis un espace d'exposition et un lieu de science, on peut le dire comme ça.
Oui, c'est vrai que c'est un endroit un peu singulier qui a ouvert il y a 5 ans, hein. C'est un parc privé. aujourd'hui on parle de parc culturel pour un petit peu le rendre compréhensible, à la fois jardin botanique, à la fois musée, à la fois parc scientifique, un petit peu tout ça, beaucoup de rencontres humaines.
Ouais. Et vous avez la flore de la Corse, c'est un bon endroit pour essayer de découvrir justement toute la végétation de votre région ?
Oui, 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 effectivement, on a la chance d'être au pied de la montagne aussi, et forcément pas très loin de la mer, on le disait. Beaucoup de plantes essentielles du maquis, hein, celles qu'on connaît habituellement dans notre île, et puis beaucoup de collections végétales avec une grande part sur les cactés.
Alors Fabrice Fenouillère, on aura le plaisir de se retrouver dimanche justement, vous avez eu la gentillesse de m'inviter pour aller vous voir pour le lancement de la saison scientifique, parce que vous organisez des conférences scientifiques et donc ça va démarrer dimanche. Pourquoi mettre de la science justement dans ce jardin ?
Alors, c'est vrai qu'on n'était pas parti sur ça au départ, mais aujourd'hui, je dois dire que c'est vraiment l'ADN de notre structure. Pouvoir tous les dimanches, à 25 reprises, du mois de mars au mois d'octobre, avoir les scientifiques parmi les plus brillants, je dirais, dans leur domaine, ceux que pour beaucoup vous recevez. Jean-Jacques Hublin, hein, que vous avez eu il y a quelques minutes, sera avec nous bientôt.
C'est vrai.
C'est un petit clin d'œil qui nous a paru sympathique. Vous avez eu l'amitié, je dirais, en tout cas la gentillesse de répondre favorablement à notre invitation. La Corse en est également très fière, hein, pour dimanche. Et ben, l'idée, c'était comme ça d'ouvrir notre île sur l'universalité tous les dimanches en donnant de grands rendez-vous et plusieurs centaines de personnes les suivent. On est extrêmement contents.
Alors Fabrice Fenouillère, après Jean-Jacques Hublin, vous avez Jean Jouzel d'abord qui va venir, je crois, aussi pour parler climat.
Oui, si on devait citer quelques personnes, et puis je serais un petit peu embêté d'en oublier, mais on peut pas citer les 25 qui vont passer cette année. Il y a Jean Jouzel qui vient le 19 mars autour de la question du climat pour demain. On aura aussi Gunther Poli, qu'on voulait avoir depuis un petit moment, que la Corse ne connaissait pas encore, en tout cas physiquement, qui viendra nous parler de la Blue Economy un peu plus tard. Et puis il y a des gens comme Francis Allais, comme Jean-Pierre Luminet, Guillaume Lecointre, Étienne Klein aussi, qui sont très importants pour nous, que le public pourra rencontrer à Galéa. Voilà, ça, c'est un petit peu ce qui peut symboliser les 25 conférences du cycle de 2017.
Voilà, et le plus simple, c'est d'aller sur votre site internet, justement, où l'agenda est proposé à tous ceux qui pourront aller vous rejoindre. Ben, nous, on se donne rendez-vous dimanche, donc c'est à 15h, hein, c'est ça qu'on se retrouve dans le jardin.
Avec grand plaisir, voilà. Alors dans une salle de conférence, au milieu des cactus, des oliviers, des petits oiseaux.
Merci beaucoup Fabrice Fenouillère, donc le parc Galéa, et le site, ben, il est tout à fait simple, c'est parcgalea.fr ou .com ?
Oui, c'est .com.
Voilà, merci beaucoup, bonne journée à vous.
Merci Mathieu, au revoir.
À bientôt. Et on termine en parlant documentaire, scientifique entre autres, mais pas seulement, hein, Jean-Marie Barre. Vous êtes le cofondateur de la plateforme Tank.fr, consacrée aux documentaires d'auteurs, et on parlait de la naissance, c'est-à-dire que le centre mondial du documentaire, c'est en Ardèche, à Lussa, c'est ça ? Comment est né ce village du documentaire, alors exactement ?
Il est né de la détermination de quelques personnes à vouloir, à considérer déjà que le documentaire était par nature un genre ou une façon de filmer très importante et sous-évaluée et peu connue, et qui avait dans ce groupe la volonté de faire émerger une légende du documentaire, pour parler clairement, et donner accès au plus grand nombre à ces œuvres qu'on voit essentiellement en festival, et qui donc échappent en partie, en très grande partie, au grand public depuis maintenant une vingtaine d'années.
Oui, parce qu'il y a le documentaire télévisé, évidemment, et puis les festivals. Hein.
Exactement. Et dans le documentaire télévisé, on est souvent dans des choses qui sont dites formatées, c'est-à-dire qui répondent à des critères esthétiques pour mieux communiquer, pour en gros satisfaire un public dont on imagine connaître les goûts. Alors que nous...
On sent la petite critique, là, déjà.
Oui, elle est même pas petite, elle est importante, elle est fondamentale. C'est que nous, ce qui nous importe, c'est de montrer des écritures différentes et de considérer que, comme Picasso, hein, la forme est une vision du monde autant que le fond. Et paradoxalement, peut-être paradoxalement, encore que nous, on considère pas que ce soit un paradoxe, sur des objets comme, ou des champs comme la science, l'approche de l'auteur a le mérite d'être, de mettre carte sur table dès le départ que, de toute façon, une représentation filmique, c'est subjectif. Ouais. Et que cette subjectivité n'empêche pas de nous instruire, de nous documenter et de faire émerger le vrai.
Avec la difficulté d'ailleurs, pour les sciences en particulier, hein, de montrer, de donner à voir, parce qu'on en parlait avec Pascal Monod tout à l'heure, hein, quand il faut montrer du milliardième de seconde, là c'est compliqué. Hein.
C'est compliqué parce que c'est des réels auxquels nous, humains, n'avons pas accès directement. Mmh. On doit passer par la machine. Et donc, c'est forcément des images fictionnées. C'est pas des images prélevées dans le réel à partir de nos outils caméras qui sont quand même aussi déjà des outils. Hein, mais des outils dont l'œil peut vérifier la validité, la ressemblance par rapport à ce qu'il voit. Alors que dans le cadre de nombre d'images de réels difficiles à approcher pour l'humain ou impossible, là on est obligé de fabriquer des images. Alors évidemment on les fabrique avec des codes, avec des manières d'eux, et la subjectivité de ces images n'enlève rien au fait qu'elles peuvent amener un regard vrai, juste, qui permet aux scientifiques de travailler dessus.
Pascal Monod, quand vous voyez des documentaires autour de votre discipline, la physique justement, il faut inventer aussi de nouvelles formes pour donner à voir.
Ouais, tout à fait, et je suis très sensible au fait que en fait, on demande aussi aux scientifiques de montrer la part de créativité, d'imaginaire, qui sont forcément indispensables à ce métier, et qui sont souvent un petit peu cachés pour montrer une espèce de rhétorique implacable, directe et irréversible. En fait, la recherche, c'est un métier extrêmement créatif.
Et puis, il faut la faire sortir du labo aussi, justement, pour passer par le filtre de l'image aussi.
Oui. Et puis, cette idée que le chercheur est porteur d'un regard poétique ou d'un regard sensible, et que cette sensibilité, cette poétique n'est pas contradictoire avec l'objet même de la recherche et du vrai, ça me paraît fondamental. Et nous, ce qu'on recherche sur cette plateforme Tunk, qui donne à voir chaque semaine 8 à 10 films qui restent 2 mois en ligne et dans lesquels on a des rubriques, on a des plages, si vous voulez, on cherche à aller chercher des regards qui prennent le temps. Et où la subjectivité d'emblée est posée. Et c'est fondamental, et c'est là où un lien très fort s'établit avec la science, c'est la distance due au temps qui fait qu'on n'est pas dans l'immédiateté, on n'a pas la contrainte de l'actualité, on est dans un temps qui est un temps beaucoup plus humain, qui est le temps de la pensée, en fait.
Alors justement, exemple, Jean-Marie Barre, parce qu'on peut aller piocher, justement, c'est une plateforme internet aussi,
tank.fr,
pour aller voir justement vos documentaires et pouvoir s'échapper de l'USA et des festivals, précisément. Alors, Vers la tendresse, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, ça c'est aussi l'exemple d'un film qui vous a laissé le temps, justement, de filmer ces jeunes de banlieue.
Alors, Alice Diop, pour le coup, qui vient d'avoir avec ce film qui vient d'être consacré au César, elle est, comment dirais-je, son objet, son travail tourne autour de la représentation de ces populations issues de la deuxième ou troisième génération. Elle a pris le temps, comme à chaque fois. Et prendre le temps, c'est à la fois, elle vient de là, donc elle a 30, 35 ans d'existence dans ces milieux, et elle prend le temps de filmer, d'approcher les gens, en gros le temps de s'apprivoiser et de bâtir quelque chose qui a de la densité.
Eh bien, extrait, par exemple, de ce documentaire à voir sur la plateforme tank.fr, Vers la tendresse.
C'est les Blancs qui connaissent l'amour. C'est vrai, c'est malheureux peut-être à dire, je te dis la vérité, mais les Blancs, ils connaissent bien l'amour parce que leurs parents, ils leur ont montré. C'est ça aussi, ça part de la maison, tu vois. Ils leur ont montré comment c'est. Mais chez les Arabes et les Noirs, c'est trop tabou. Moi, je vois des potes qui sont avec des Françaises. Ils commencent à connaître, tu vois. Quand ils vont chez leurs beaux-parents, normal, ils s'embrassent. Tu vois. Nous, c'est chaud, des trucs comme ça. Tu vois. Je t'ai dit, j'ai jamais vu mon père embrasser ma mère, tu vois. Donc, tu vois, comment tu veux apprendre. Après, l'amour, c'est vrai que c'est pas un smack, mais comment tu vas apprendre. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois pas l'amour chez les Africains. L'amour, tu le vois pas. Moi, en tout cas, chez moi, mon père, il respectait ma mère, mais j'ai pas vu l'amour, tu vois. Mais il l'a respecté. Et j'ai pas vu un couple qui s'aime. En France, ils ont pas. Y a pas le temps de l'amour ici.
Voilà, extrait de l'un des nombreux documentaires, Vers la tendresse, donc Alice Diop, Jean-Marie Barbe. Comment ça fonctionne? Alors, vous êtes par thématique, c'est ça, sur le site?
Alors, il y a des plages, et alors il y a une plage écologie, il y a une plage histoire et politique, il y a une plage science, il y a une plage art, il y a une plage brouillant d'un rêve, il y a une plage dogmonde avec des films qui viennent des quatre coins du monde, faits par des jeunes réalisateurs dans ces pays. Donc c'est des regards de l'intérieur, africains, caucasiens, indonésien, asiatique, parce que à l'USAS aussi on développe des formations à l'international. Donc on
vous avez une école de cinéma déjà ou
on
pas,
a
sur
un
place
master c'est une question évidemment hein. Avec l'université de Grenoble. On a un master qui accueille 12 étudiants en réalisation documentaire et 6 en production chaque année.
Bravo. Combien ça coûte alors pour s'abonner à la plateforme et voir ces documentaires?
Alors c'est vraiment pas très cher hein. Vous allez sur Tunk, TENK.fr. Vous avez le premier mois qui est à 1 euro, sans abonnement. Hein. Vous vous abonnez pour 1 euro, pour voir. Et ensuite, ça coûte, si vous êtes abonné toute l'année, c'est-à-dire si vous prenez un abonnement à 60 euros, ça revient à 5 euros par mois. Ou si vous allez que de temps en temps, c'est 6 euros par mois.
Voilà, pour voir donc du documentaire d'auteur.
Absolument. Hein,
et cet acte politique dont vous revendiquez vraiment la nature.
Et sincèrement, je crois que le documentaire a valeur de... c'est comme faire ses humanités il y a 40 ans, quoi. C'est-à-dire que ce parcours dans l'ensemble des œuvres, dans la variété, vous donne accès à des regards sur l'économie, à des regards sur la sociologie, à des regards sur l'histoire, qui sont, je crois, le sens profond d'une culture à venir parmi les jeunes qui regardent beaucoup les images et parmi les moins jeunes qui ont envie de continuer d'en voir, mais pas des images éphémères ou d'actualité seulement.
Voilà, l'USAS donc en Ardèche, et puis bien sûr la plateforme internet tank.fr. Merci beaucoup.
Merci
à vous.
Et
merci. Avec François Fourier, ce livre, toujours chez Albin Michel, Le Souffle, la conscience et la vie. Merci, bon week-end.